Chapitre 31. Un homme jaloux de sa dignité. Il n'est guère de jour où le passant ne rencontre, dans les rues encombrées de notre métropole, un de ces vieillards ridés, maigres et jaunes, qu'on pourrait croire tomber des nues, si les nues ne se respectaient pas trop pour exporter de tels produits, qui se traînent à pas lents et d'un air effaré, comme troublés et effrayés par le bruit et le remue-ménage de la rue. Ce vieillard-là, quand on en rencontre un, est toujours un petit vieillard. Il a pu jadis être un grand vieillard, mais il s'est rétréci et transformé en petit vieillard. Si par hasard il était déjà d'avance petit, il est devenu plus petit encore. Son habit est d'une couleur et d'une coupe qui n'ont jamais été de mode à aucune époque, dans aucun pays. Il est clair que ce vêtement n'a pas été fait pour lui, ni pour aucun autre mortel. Quelque entrepreneur qui aura soumissionné cette fourniture aura pris mesure sur le corps de la destinée pour 5000 habits conformes au modèle, et la destinée aura prêté celui-là au vieillard en question. Cet uniforme est orné de grands boutons de métal verni qui ne ressemblent en rien aux boutons de tout le monde. Notre vieillard porte un chapeau râpé, amolli sur les bords par les coups de pouce, mais trop endurci du reste pour jamais s'adapter à la forme de la pauvre tête qu'il a l'air de coiffer. Sa chemise de grosse toile et sa cravate d'étoffe non moins grossière n'ont pas plus d'individualité que l'habit ou le chapeau. Elles ont également l'air de ne pas lui appartenir et de n'appartenir à personne. Et néanmoins, ce vieillard porte cette toilette avec un air aussi gêné que s'il n'était pas accoutumé à pareille fête et qu'il se fût seulement bichonné de la sorte pour aller dans le monde. Il faut donc croire qu'il passe la plupart de ses journées en robe de chambre et en bonnet de coton, tel que le rat des champs, après une année de famine, va visiter le rat de ville et trotte timidement vers le logis de son hôte en traversant une cité de chats, tel ce vieillard s'en va par les rues. Parfois, dans l'après-midi de quelques jours de fête, on le rencontre marchant d'un pas un peu plus infirme que de coutume, les yeux animés d'une lueur humide et marécageuse. C'est que le petit vieillard est ivre. Il faut très peu de choses pour le mettre dans cet état. Une pinte de bière fera trébucher ses jambes peu solides. Quelques nouvelles connaissances, la plupart du temps une connaissance de rencontre, a voulu réchauffer la faiblesse du vieillard en le régalant d'un verre d'ale, et il s'ensuivra qu'on ne reverra point passer le vieillard de longtemps. Car ce petit vieillard rentre au dépôt de mendicité, et même lorsqu'il se conduit bien, on ne le laisse sortir que fort rarement. À mon avis, on pourrait lui ouvrir les portes plus souvent, vu le peu d'années qu'il lui reste à se promener sous le soleil. Et lorsqu'il se conduit mal, les régisseurs de la maison des pauvres l'enferment plus étroitement que jamais dans un bosquet de 59 vieillards non moins décrépits qui s'empestent réciproquement d'une foule d'odeurs nauséabondes. Tel était le père de Madame Pleurniche, petit vieillard dont le gazouillement n'était pas plus fort que celui d'un oiseau râpé qui avait été jadis dans ce qu'il appelait la reliure musicale, qui avait eu de grands malheurs et n'avait jamais réussi à faire son chemin, retombant toujours dans l'impasse de la pauvreté, et avait fini par se retirer de son propre gré dans le workhouse, ou asile de pauvres, institué par acte du Parlement pour remplir l'office du bon samaritain du district, mais sans allouer les 2 deniers mentionnés dans l'Évangile à chaque personne secourue, ce qui eût été une grave atteinte aux règles de l'économie politique, lors du règlement de cette saisie qui avait conduit M. Pleurniche à la prison de la Maréchaussée. Avant que les affaires de son gendre eussent pris une si mauvaise tournure, le vieux Naudi, on l'appelait toujours ainsi dans sa retraite légale, car pour les locataires de la cour du cœur saignant, c'était toujours le vieux Monsieur Naudi, avait occupé une place au foyer et à la table des Pleurniche. Il comptait reconquérir sa position sous le toit domestique dès que la fortune sourirait au plâtrier. Mais il était bien décidé, tant qu'elle conserverait un visage revêche, à habiter le bosquet des petits vieillards en communauté d'odeurs avec eux. Mais Naudi avait beau être plus pauvre que Job, il avait beau porter la livrée du paupérisme et habiter le workhouse, cela ne diminuait en rien l'admiration qu'il inspirait à Madame Pleurniche. Cette dame était aussi fière des talents paternels que si ses talents eussent fait de lui un lord chancelier. Elle avait une foi aussi vive dans la distinction et la convenance des manières paternelles que si elle eût eu affaire à un premier chambellan. Le pauvre vieux bonhomme savait quelques petites chansons insipides, depuis longtemps oubliées, à propos des blessures infligées par le fils de Vénus à Chloé, à Phyllis et au berger Coridon. Et Madame Pleurniche était convaincue qu'on n'entendait à l'opéra aucune musique qui égala les minces petits filets de voix qui s'échappaient en tremblotant des lèvres qui redisaient ces antiques refrains, comme aurait pu le faire une petite serinette usée et détraquée, mise en mouvement par un enfant à la mamelle. À chaque jour de sortie, jour heureux, où l'on échappait à la perspective monotone de 49 vieillards tondus, c'était à la fois le bonheur et la désolation de Madame Pleurniche, lorsque M. Naudy avait bien mangé et avait bu son demi-verre de porter, de dire « Chantez-nous quelque chose, père. » Alors père leur chantait les beautés de Chloé, et s'il était un peu en train, il leur donnait ensuite les charmes de Phyllis. Depuis qu'il avait pris sa retraite, il n'avait pas encore eu le courage d'aborder Coridon, et Madame Pleurniche déclarait, en s'essuyant les yeux dans le coin de son tablier, qu'il n'y avait pas au monde un chanteur capable de rivaliser avec père. Si M. Naudy, au lieu d'arriver du workhouse, fût venu tout droit de la cour, ou même si c'eût été quelque noble réfrigérateur, revenu triomphalement d'une cour étrangère, afin d'être présenté à la reine et de se voir promu à l'occasion de sa dernière bévue diplomatique, Madame Pleurniche n'aurait pas éprouvé plus d'orgueil qu'elle n'en éprouvait à promener son père dans la cour du cœur saignant. « Voilà mon père, » disait-elle, en le présentant à un voisin. « Père ne tardera pas à revenir demeurer avec nous pour tout de bon. Comme père a bonne mine, n'est-ce pas ? Père chante mieux que jamais, je vous assure. Si vous l'aviez entendu tout à l'heure, vous ne l'oublieriez jamais. » Quant à Pleurniche, en épousant la fille de M. Naudy, il avait épousé les croyances de cette dame. Et la seule chose dont il s'étonna, c'est qu'un chanteur si habile n'eût pas fait fortune. Après y avoir mûrement réfléchi, il pensa que cela provenait de ce qu'on n'avait pas commencé assez tôt à cultiver le génie philharmonique de M. Naudy. Car, ainsi raisonnait Pleurniche, pourquoi perdre votre temps à relier de la musique lorsque vous en aviez tant en vous-même ? Voilà le grand tort, à mon avis. Le vieux Naudy avait un protecteur. Un seul. Il avait un protecteur d'une affabilité superbe, dont il semblait honteux lui-même. Mais il disait pour son excuse que c'était plus fort que lui, qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'être plus familier avec ce brave homme, qu'on ne devait s'y attendre. À raison de leurs positions respectives, en le voyant si simple et si pauvre. Mais c'est égal. Tout en conservant son quant à lui, il était d'une bonté extraordinaire pour son protégé. Le vieux Naudy était allé plusieurs fois à la prison de la Maréchaussée durant la courte captivité de son gendre. Et il avait été assez heureux pour acquérir les bonnes grâces du doyen de cette institution nationale, et le temps n'avait fait que le mettre plus en faveur auprès de lui. D'habitude, M. Dorrit recevait ce vieillard comme on reçoit un vassal engagé à foi et hommage. Il organisait de petites régalades et des thés pour son protégé, comme si celui-ci venait lui présenter les hommages des habitants primitifs de quelqu'un de ses fiefs éloignés. Il y avait des moments où le doyen semblait presque disposé à jurer que Naudy était un vieux et fidèle serviteur qui avait bien mérité de la famille Dorrit. Lorsque par hasard il parlait du père de Madame Pleurniche, M. Dorrit disait « Mon vieux protégé ». Il était enchanté de le voir, afin de se livrer à des commentaires sur sa décrépitude dès qu'il avait tourné le dos. Il s'étonnait que le pauvre bonhomme n'eût pas encore le chef trop branlant. « Il est dans le workhouse, monsieur, disait-il en pareille occasion. Il n'a pas de chez lui, pas de visiteurs, pas de position sociale, pas de dignité personnelle, pas de spécialité. Situation déplorable. » C'était l'anniversaire de la naissance du vieux Naudy, et on lui avait permis de sortir. Il s'était bien gardé de dire aux autorités compétentes que c'était sa fête, car on aurait pu le tenir enfermé pour lui apprendre que les vieux prolétaires de son genre auraient mieux fait de ne pas naître du tout. Il traversa les rues comme à l'ordinaire pour se rendre à la cour du cœur saignant, où il dîna avec sa fille et son gendre, pour lesquels il chanta Phyllis. On allait lui demander Chloé, lorsque la petite Dorrit entra, en passant, pour savoir comment allait le Pleurniche. « Miss Dorrit, dit Madame Pleurniche, voici père. A-t-il bonne mine, hein? Jamais il n'a été plus en voie. » La petite Dorrit tendit la main au vieillard et lui dit en souriant qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps. « Non, ils sont un peu durs avec mon pauvre père, dit Madame Pleurniche, dont le visage s'allongea, et on ne lui laisse pas prendre l'air aussi souvent qu'il faudrait. Mais il ne tardera pas à revenir demeurer avec nous pour de bon, n'est-ce pas, père ?»« Oui, ma chère, j'y compte bien. Cela viendra s'il plaît à Dieu. » Ici, M. Pleurniche prononça un discours qu'il prononçait invariablement, sans y changer un seul mot, lorsqu'il s'en présentait une occasion favorable. Voici la formule de ce discours. « Jean-Édouard nous dit, monsieur, tant qu'il y aura sous ce toit une once de n'importe quoi à mettre sous la dent, et tant qu'il y aura une goutte de n'importe quoi à boire, vous pouvez en prendre votre part. Tant qu'il y aura sous ce toit une poignée de n'importe quoi à brûler et une bouchée de n'importe quoi pour se coucher, vous pouvez en prendre votre part. Si par hasard il n'y avait plus rien sous ce toit, vous n'y seriez pas moins bienvenu que s'il s'y trouvait quelque chose. Et voilà mon sentiment. Ainsi donc, n'allez pas vous y tromper, et par conséquent, je vous prie en grâce de sortir de là. Pourquoi alors ne le faites-vous pas ?» À ce discours lucide, que M. Pleurniche récitait toujours comme il l'avait composé, c'est-à-dire avec beaucoup de peine, le père de Mme Pleurniche répondait de sa voix de pipeau fêlé, « Merci mille fois, Thomas. Je connais très bien vos sentiments, et je vous en remercie. Mais non, Thomas, non, pas avant que je ne puisse revenir sans vous ôter un morceau de la bouche, à vous ou à vos enfants. Et c'est ce que je ferais si je revenais maintenant, vous avez beau dire. Puisse ce temps-là arriver bientôt, et il n'arrivera jamais trop tôt à mon gré. Mais je ne reviendrai pas avant. Non, Thomas, pas avant. » Madame Pleurniche, qui avait détourné la tête en tenant le coin de son tablier, se retourna pour prendre part à la conversation. Elle annonça à Mademoiselle Dorrit que père avait l'intention de passer l'eau pour présenter ses respects au doyen, à moins que Mademoiselle Dorrit n'y vît quelque inconvénient. La petite Dorrit répondit « Je rentre moi-même, et si votre père veut bien venir avec moi, je serai très heureuse d'avoir soin de lui. »« Très heureuse, » reprit-elle, car elle cherchait toujours à ménager l'amour-propre des malheureux, très heureuse de l'avoir pour compagnon de route. « Là, père !» s'écria Madame Pleurniche, « vous allez vous figurer que vous êtes redevenu un jeune homme bien fringant pour servir comme ça de cavalier à Mademoiselle Dorrit. Laissez-moi faire un nœud galant à votre cravate, car vous êtes un vert galant vous-même, père. » Après cette plaisanterie filiale, Madame Pleurniche rajusta un peu la toilette de son père, puis elle embrassa le vieillard de tout son cœur et se tint à la porte, pressant dans ses bras le plus chétif de ses deux enfants, tandis que le plus fort se roulait sur les marches, à regarder le vieux Naudi s'éloigner d'un pas chancelant au bras de la petite Dorrit. Il ne marchait pas vite, on le devine. La petite Dorrit mena son compagnon par le pont suspendu, où elle l'engagea à se reposer un instant, et tous deux se mirent à regarder la rivière en parlant des vaisseaux qu'on y voyait. Le vieillard confia à la jeune fille ce qu'il ferait si jamais un navire chargé de pièces d'or arrivait à son adresse. Il avait la ferme intention, dit-il, de louer pour les Pleurniche et pour lui-même un bel appartement donnant sur un café-jardin où il demeurerait jusqu'à la fin de leur jour et se ferait servir par le garçon limonadier. Rien que d'y penser, c'était une vraie fête pour M. Naudy. Il ne se trouvait plus qu'à 5 minutes de la prison lorsqu'au détour d'une rue, ils se rencontrèrent face à face avec Fanny, coiffée de son chapeau neuf et voguant vers le même port. « Bonté du ciel, Aimé !» s'écria la danseuse, faisant un bond en arrière. « Ce n'est pas possible !»« Quoi donc, ma chère Fanny ?»« Par exemple, je suis prête à croire bien des choses qu'on pourrait me dire sur ton compte, » poursuivait l'autre avec une vive indignation. « Mais jamais, non, jamais, je ne t'aurais cru capable d'une pareille bassesse !» « Fanny !» s'écria la petite Dorrit, blessée et surprise. « Oh, tu as beau dire, Fanny, petit être sans dignité que tu es. L'idée de te montrer ainsi dans les rues en plein jour, avec un indigent du workhouse. » Elle lança ce dernier mot comme une balle qui s'échappe du canon de fusil à vent. « Oh, Fanny ! Je te dis encore que tu m'agaces avec tes « oh, Fanny !» Je n'ai jamais rien vu de pareil. L'obstination que tu mets à vouloir nous déshonorer à tout propos est vraiment infâme. Fille, petite vilaine !» Est-ce donc déshonorer quelqu'un, répondit doucement la petite Dorite, que de prendre soin de ce pauvre vieillard ? « Oui, mademoiselle, répondit sa sœur, et vous devriez le savoir. Et vous le savez très bien. Et c'est tout bonnement, parce que vous le savez, que vous agissez ainsi. Le plus grand bonheur de votre vie, c'est de rappeler à votre famille qu'elle a eu des malheurs. Et votre plus grand plaisir, c'est de fréquenter des gens de rien. Mais si vous ignorez ce que c'est que les convenances, moi, je ne l'ignore pas. Vous me permettrez donc de traverser de l'autre côté. » Et vous me laisserez poursuivre mon chemin sans avoir l'air de me connaître. » Là-dessus, elle courut d'un bond sur le trottoir opposé. Le vieux bonhomme qui déshonorait ainsi la famille Dorite s'était tenu à quelques pas de là, car la jeune couturière, dans son premier mouvement de surprise, lui avait lâché le bras, saluant Fanny avec déférence, bousculée par des piétons impatients qui juraient après lui parce qu'il leur barrait le chemin. Il rejoignit alors sa compagne, la tête un peu étourdie, et lui demanda « J'espère qu'il n'est rien arrivé à votre honoré père, mademoiselle. J'espère que toute votre honorée famille se porte bien. » « Non, non, il n'est rien arrivé, » répondit la petite Dorite. « Tout le monde se porte bien, merci. Donnez-moi donc le bras, monsieur Naudy. Nous n'avons plus bien loin à aller maintenant. » Elle se remit à causer avec le vieillard, comme elle avait fait tout le long du chemin. Ils arrivèrent bientôt dans la loge où monsieur Chivery était de garde, et ils entrèrent dans la prison. Or, le hasard voulut que le père des détenus s'avança en flânant vers la loge, au moment où Aimé en sortait, donnant le bras au vieux Naudy. Ce spectacle parut causer au doyen une très vive agitation et un profond chagrin. Sans faire la moindre attention à son protégé, qui, après avoir salué, se tenait le chapeau à la main, ainsi qu'il le faisait toujours en cette auguste présence, il lui tourna le dos, se dirigea à la hâte vers l'entrée du corps de logis où se trouvait sa chambre et remonta chez lui. La petite Dorite, après avoir promis de revenir dans un instant, laissa là le pauvre vieillard que, dans une heure malencontreuse, elle avait pris sous sa protection et s'empressa de rejoindre son père. Sur l'escalier, elle rencontra Fanny qui la suivait avec des airs de dignité offensée. Tous les trois entrèrent dans la chambre presque en même temps. Le doyen se laissa tomber dans son fauteuil, se cacha le visage dans ses mains et poussa un gémissement. « Naturellement !» s'écria Fanny. « Il ne pouvait pas en être autrement. Voilà, pauvre papa affligé !»« Maintenant, j'espère que vous me croirez, mademoiselle, lorsque je vous dirai quelque chose. »« Qu'avez-vous donc, père ?» demanda la petite Dorite, se penchant sur lui. « Vous ai-je fait de la peine ? Ce n'est pas moi qui vous cause ce chagrin, j'espère. »« Vous espérez ! Il est bien temps de dire cela. Oh, petite !» Fanny s'arrêta pour chercher une épithète assez expressive. « Petit être vulgaire ! Oh oui, tu es bien une véritable enfant de prison !» Le doyen mit un terme à ses reproches irrités en étendant la main, gémit de nouveau, leva enfin la tête qu'il secoua tristement en regardant la plus jeune de ses filles. « Aimé, je sais que tu es innocente de toute mauvaise intention, mais tu m'as blessée au cœur, ma fille. »« Innocente de toute mauvaise intention !» interrompit l'implacable Fanny. « Allons donc, elle est plébéienne de cœur, voilà ce qu'elle est. Son intention est de dégrader la famille. »« Père, s'écria la petite Dorite, pâle et tremblante, je suis bien fâchée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Dites-moi ce que j'ai fait mal, afin que je me corrige. »« Ce que tu as fait, petit être prévaricateur, répliqua Fanny, mais tu le sais fort bien, je te l'ai déjà dit. Ne te charge donc pas encore la conscience en faisant semblant de l'ignorer. « Silence, Fanny !» reprit le père, passant à plusieurs reprises son mouchoir sur son visage, puis le serrant convulsivement dans la main qu'il venait de laisser retomber sur ses genoux. « J'ai fait ce que j'ai pu pour vous maintenir dans une sphère distinguée. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous conserver un rang ici. Peut-être ai-je réussi, peut-être n'ai-je point réussi. Peut-être avez-vous remarqué mes efforts, peut-être ces efforts vous ont-ils échappé. Je ne prétends pas décider cette dernière question. J'avais tout perdu, fort l'honneur. C'est là le dernier coup qui m'avait été épargné jusqu'à ce jour. À ces mots, sa main crispée se desserra, et il porta de nouveau son mouchoir à ses yeux. La petite Dorrit, agenouillée auprès de son père dans une attitude suppliante, le contemplait d'un air plein de remords. Le doyen, au sortir de son accès de douleur, serra de nouveau son mouchoir. « Oui, jusqu'à ce jour, j'avais par bonheur échappé aux humiliations. Au milieu de toutes mes épreuves, j'ai trouvé en moi-même assez de fierté, et chez ceux qui m'entourent assez de respect, si je puis me servir de cette expression, pour échapper à toute humiliation. Mais aujourd'hui, en ce moment, je me sens profondément humilié. » Naturellement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, s'écria l'irascible Fanny. S'en aller trotter et galoper au bras d'un indigent de Workhouse. Nouvelle balle lancée par le fusil avant. Mais, cher père, s'écria la petite Dorrit, je ne cherche pas à me justifier de vous avoir causé tant de peine. Non, je vous assure. Elle joignait ses mains suppliantes dans une angoisse inexprimable. Tout ce que je vous demande, c'est de vous consoler et d'oublier ma faute. Mais si je n'avais pas su que vous étiez toujours si bon pour ce vieillard, et que vous étiez toujours content de le voir, je ne serais pas venu ici avec lui, père, croyez-le bien. La faute que j'ai eu le malheur de commettre, je l'ai commise sans vouloir. Je ne voudrais pas amener une larme dans vos yeux, cher père, pour rien au monde. » Le cœur de la petite Dorrit était prêt à se briser. Fanny, avec un sanglot moitié irrité, moitié repentant, se mit à pleurer de son côté, et s'écria, ainsi qu'elle ne manquait jamais de le faire, lorsque ses colères commençaient à se dissiper, et qu'elle était très fâchée contre elle-même et un peu fâchée contre les autres, qu'elle voudrait être morte. Non, le doyen avait serré sa plus jeune fille contre son cœur et la caressait en lui lissant les cheveux. « Là, là, n'en parlons plus, aimée. N'en parlons plus, mon enfant. Je l'oublierai dès que cela me sera possible. Je, avec une gaieté affectée, je tâcherai de l'oublier bientôt. Il est parfaitement exact, ma chère, que je suis toujours heureux de voir mon vieux protégé. Mais en cette qualité seulement, vous comprenez, et que je tends à ce roseau brisé, j'espère qu'il n'y a aucune inconvenance à le désigner ainsi, une main aussi protectrice et aussi bienveillante que ma position me permet de le faire. Tout cela est très exact, ma chère enfant. Mais en même temps, je sais ne pas dépasser les bornes que m'impose le sentiment de ma propre dignité, de la dignité qui me convient. Il y a certaines choses, il s'arrêta pour sangloter, qui ne saurait se concilier avec ce sentiment et qui le blesse profondément. Ce n'est pas d'avoir vu ma chère aimée prévenante et affable envers mon vieux protégé, ce n'est pas là ce qui me froisse. C'est, car je veux me montrer explicite en terminant ce pénible entretien, d'avoir vu ma fille, ma propre fille, entrant dans la cour de cette communauté, au sortir de la rue, et souriant, au bras d'un, oh mon Dieu, au bras d'une livrée de misère. » L'infortuné doyen fit cette allusion à l'habit antédiluvien d'une voix si émue qu'on eut peine à l'entendre en brandissant la main qui étreignait le mouchoir. Peut-être eut-il trouvé d'autres paroles pour exprimer sa douleur sans un coup déjà deux fois répété qu'on venait de frapper à la porte et auquel Fanny, qui déclarait toujours qu'elle voulait être morte et qui ajoutait même qu'elle ne serait pas fâchée d'être enterrée, répondit « Entrez !» « Ah, John !» s'écria le doyen, qui s'était calmé tout à coup. « Qu'est-ce qu'il y a, John ?»« Une lettre pour vous, monsieur, qu'on vient d'apporter il y a un instant avec une commission. Et comme je me trouvais dans la loge, monsieur, j'ai voulu vous la monter moi-même. » L'attention de l'orateur était fort distraite par le pitoyable spectacle de la petite Dorrit, agenouillée aux pieds de son père et détournant la tête. « Ah, très bien, John, je vous remercie. La lettre est de M. Clennam, monsieur. C'est la réponse. Et il vous fait dire, monsieur, qu'il vous envoie ses compliments et qu'il aura le plaisir de venir vous voir cet après-midi, et qu'il espère vous trouver, ainsi que l'orateur semblait plus distrait que jamais, Mademoiselle Amy. Oh, très bien! Tandis que le père entr'ouvrait la lettre qui renfermait un billet de banque, il rougit un peu et lissa de nouveau les cheveux d'Amy. Merci, John. Je sais ce que c'est. Bien obligé de votre complaisance. On n'attend pas la réponse. Non, monsieur. Merci, John. Comment se porte votre mère, John? Merci, monsieur. Pas aussi bien qu'on pourrait le désirer. Et même nous allons tous assez mal, excepté père. Mais en somme, ma mère se porte assez bien. Rappelez-nous à leurs souvenirs, voulez-vous? À leurs bons souvenirs, s'il vous plaît, jeune John. Merci, monsieur, je n'y manquerai pas. Et M. Chivery, fils, alla son chemin, ayant improvisé sur place une épitaphe complètement inédite, dont voici la teneur. Si gisent les restes mortels de John Chivery, qui, ayant vu un jour l'idole de son âme en proie à la douleur et aux larmes, et se sentant incapable de soutenir ce spectacle navrant, a aussitôt regagné la demeure de ses parents inconsolables, où il a mis fin à sa triste existence. « Là, là, Amy, reprit le doyen, lorsque John eut refermé la porte. « Qu'il ne soit plus question de cela !» Depuis quelques minutes, son accablement s'était dissipé comme par enchantement. Il était même devenu très gai. « Et où donc est mon vieux protégé pendant tout ce temps-là ? Il ne faut pas le laisser seul une minute de plus, ou il commencera à se figurer qu'il n'est pas le bienvenu. Veux-tu me l'amener, mon enfant, ou je vais aller le chercher moi-même ? Si cela vous est égal, père, je crois qu'il vaut mieux que ce soit vous, répondit la petite Dorrit, cherchant à étouffer ses sanglots. Certainement, j'irai moi-même, ma chère. J'oubliais. Tes yeux sont un peu rouges. Là, remets-toi, Amy, ne t'inquiète plus de moi. Je n'y pense déjà plus, mon amour, plus du tout. Remonte chez toi, Amy, va effacer les traces de tes larmes et prends un air aimable pour recevoir M. Clennam. J'aimerais mieux rester dans ma chambre, père, répliqua la petite Dorrit, qui eut plus de peine encore à se calmer. J'aimerais beaucoup mieux ne pas voir M. Clennam. Oh, fis donc, ma chère, c'est de l'enfantillage. M. Clennam est un homme très comme il faut, très comme il faut. Un peu réservé parfois, mais extrêmement comme il faut, je dois le reconnaître. Pour rien au monde, je ne voudrais que tu ne fusses pas ici pour le recevoir, ma chère. Cet après-midi surtout. Ainsi donc, va te rafraîchir le visage, Amy. Va, ma bonne fille. » La petite Dorrit, en fille soumise, se leva pour obéir à cet ordre. Elle s'arrêta avant de s'éloigner pour donner à sa sœur un baiser de réconciliation. Sur ce, la danseuse, qui, l'esprit bourrelé de remords, avait renoncé pour le moment au souhait nécrologique dans lequel elle avait coutume de chercher des consolations, conçut et exécuta la brillante idée de souhaiter que le vieux Noddy fût plutôt mort à sa place, au lieu de venir comme un dégoûtant, ennuyeux et méchant bonhomme, créer des querelles entre deux sœurs. Le doyen, qui fredonnait un air et portait sa calotte de velours un peu de côté, tant il était de bonne humeur, descendit dans la cour, où il trouva le vieux Noddy debout auprès de la grille, son chapeau à la main, dans l'attitude qu'il avait conservée depuis le départ de la petite Dorrit. « Allons, Noddy, » dit le père des détenus avec une suavité extrême. « Pourquoi restez-vous là, Noddy? Vous savez le chemin. Pourquoi ne montez-vous pas ?» Le doyen poussa la condescendance jusqu'à tendre la main à son protégé en ajoutant « Comment allez-vous, Noddy ? Nous nous portons assez bien, n'est-ce pas ?» Le vieux gazouilleur répondit « Merci, honoré monsieur. Je n'en vais que mieux depuis que j'ai le plaisir de voir votre honneur. » Tandis qu'il remontait vers le logis de M. Dorrit, le doyen présenta le vieillard à un détenu de date récente. « Une vieille connaissance à moi, monsieur, un vieux protégé. Couvrez-vous, mon bon Noddy. Mettez votre chapeau. » ajouta-t-il ensuite avec beaucoup d'affabilité. Son patronage ne s'arrêta pas là, car il chargea Maggie de faire les apprêts du thé et d'acheter des gâteaux, du beurre frais, des œufs, du jambon froid et des crevettes, lui remettant à cet effet un billet de banque de 10 livres sterling, avec force recommandation d'avoir grand soin de compter la monnaie. Ses préparatifs étaient presque terminés, et la petite Dorrit était redescendue avec son ouvrage lorsque Clennam se présenta. Le doyen fit à son hôte un accueil des plus gracieux et l'invita à partager leur repas. « Amy, ma chérie, tu connais M. Clennam mieux que je n'ai le bonheur de le connaître moi-même. Je n'ai donc pas besoin de te le présenter. Fanny, ma chère, monsieur n'est pas non plus un étranger pour toi. » Fanny fit un salut hautain, car en pareille occasion, elle paraissait croire à une vaste conspiration qui avait pour but d'insulter tous les Dorrit en général, en feignant de ne pas les comprendre et en ne leur témoignant pas le respect auquel ils avaient droit, et elle regardait Arthur comme un des complices de cette ligue. « Vous voyez ici, monsieur Clennam, un vieux protégé à moi, le vieux Noddy, un vieux serviteur très fidèle. » Il parlait toujours de Noddy comme d'une anticaille, bien qu'il fût son aîné de 2 ou 3 années. « Voyons un peu. Vous connaissez Pleurniche, je crois. Il me semble que ma fille Amy m'a dit que vous connaissiez ces pauvres Pleurniche. « Oui, je les connais, » répondit Arthur Clennam. « Eh bien, monsieur, voilà le père de Madame Pleurniche. Vraiment, je suis très content de le rencontrer. » « Vous seriez encore plus content, monsieur Clennam, si vous connaissiez toutes ces bonnes qualités. » « J'espère que je ne tarderai pas à les connaître, maintenant que je connais celui qui les possède, » dit Arthur, qui plaignait ce vieillard courbé et soumis. « Il a congé aujourd'hui, et il est venu faire une visite à de vieux amis qui sont toujours heureux de le voir, » remarqua le père des détenus, ajoutant tout bas, « Il est au workhouse, le pauvre bonhomme, c'est son jour de sortie. » Pendant cet entretien, Maggie, aidée par sa tranquille petite mère, avait mis le couvert et le repas se trouva prêt. Comme il faisait chaud et que l'on étouffait dans la prison, la fenêtre était toute grande ouverte. « Si Maggie veut bien étendre ce journal sur le rebord de la croisée, ma chère, » dit le doyen d'un air bénévole en s'adressant à mi-voix à la petite Dorrit, « mon vieux protégé pourra y prendre son thé pendant que nous allons prendre le nôtre. » De sorte qu'avant de régaler royalement le père de Madame Pleurniche, M. William Dorrit crut devoir établir entre le vieillard et l'honorable société un gouffre d'un pied de large, bonne mesure. Clennam n'avait jamais rien vu qui ressemblât au magnanime patronage du doyen. Il se perdait dans la contemplation des nombreuses merveilles de ce curieux spectacle. La plus frappante de toutes fut le plaisir que semblait éprouver l'autre à faire remarquer la décrépitude et les infirmités de son protégé. On eût dit un aimable cornac dans une ménagerie se livrant à un rapide commentaire sur la décadence de l'animal qu'il était chargé de montrer. « Encore un peu de jambon, Noddy ? Non ? Comment, vous n'êtes pas encore prêt ? Quel temps vous mettez à manger quelques bouchées ? Ces derniers temps s'en vont, pauvre bonhomme, » ajouta-t-il pour l'édification des autres convives. Une autre fois, il lui demanda « Voulez-vous des crevettes, Noddy ?» Et comme Noddy ne répondit pas tout de suite, « Il entend très mal, » observa-t-il. « Il sera bientôt tout à fait sourd. » Plus tard encore, il lui dit « Vous promenez-vous beaucoup, Noddy, entre ces grands murs, dans la cour de votre endroit ?»« Non, monsieur, non, ça ne me tente pas beaucoup. » « Non, cela ne m'étonne pas du tout. C'est très naturel. » Puis en confidence à ses voisins, « Ses jambes ne sont plus bien solides. » Puis il demanda à son protégé, avec un ton obligeant qui annonçait qu'il croyait devoir lui demander quelque chose, quand ce ne serait que pour empêcher le vieillard de s'endormir, « Quel âge avait le plus jeune des petits Pleurniche ?»« Mon petit-fils Jean-Édouard, » dit le vieux protégé, posant lentement son couteau et sa fourchette afin de réfléchir, « Vous voulez savoir son âge ? Voyons un peu. » Le doyen portant la main à son front en disant « Il perd la mémoire. »« Quel âge, Jean-Édouard, monsieur ? Ma foi, j'oublie. Je ne pourrais pas vous dire maintenant s'il a 2 ans et 2 mois ou 2 ans et 5 mois, c'est l'un ou l'autre. »« Ne vous cassez pas la tête à chercher plus longtemps, » répondit le doyen avec une extrême indulgence. « Ses facultés s'en vont, c'est clair. » Ce vieillard se rouille à mener la vie qu'il mène. Plus les infirmités qu'il croyait découvrir dans son protégé étaient nombreuses, plus il paraissait s'intéresser à lui. Et lorsqu'il quitta son fauteuil, après le thé, pour lui dire adieu, il se tint aussi droit et se donna un air aussi robuste que possible. « Noddy, ceci ne s'appelle pas un shilling, vous savez, » dit-il en lui en mettant un dans la main, « cela s'appelle du tabac. Honoré monsieur, je vous remercie. Cela me servira à acheter du tabac et pas autre chose. Mes remerciements et mes respects à Mademoiselle Amy et Mademoiselle Fanny. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur Clennam. » « Eh, dites donc, mon vieux Noddy, n'allez pas nous oublier, » ajouta le doyen. « Il faut revenir nous voir lorsque vous aurez une après-midi à vous. Il ne faut plus sortir sans venir nous voir, ou nous serions jaloux. »« Bonsoir, Noddy. Prenez bien garde en descendant l'escalier, Noddy, car les marches en sont un peu usées et inégales. » Le père des détenus se tint sur le palier, regardant descendre le vieillard. Puis, lorsqu'il fut rentré dans sa chambre, il remarqua avec une certaine satisfaction solennelle « C'est un triste spectacle que celui-là, monsieur Clennam. Bien qu'on ait la consolation de savoir que mon vieux protégé ne se doute pas de sa décrépitude. Ce pauvre bonhomme n'est plus qu'une lugubre ruine. Plus d'élasticité. Ses ressorts sont tous brisés, fracassés, pulvérisés, monsieur. » Comme Clennam avait ses raisons pour rester, il répondit quelque chose au hasard et se mit à regarder par la croisée, à côté du père des détenus, tandis que Maggie et sa petite mère lavaient les tasses et débarrassaient la table. Arthur remarqua que son compagnon se tenait à la fenêtre, comme aurait pu le faire un monarque affable et accessible. Il avait presque l'air de bénir ceux de ses sujets qui levaient par hasard la tête pour le saluer. Lorsque la petite Dorrit eut posé son ouvrage sur la table et que Maggie eut posé le sien sur le lit, Fanny attacha les brides de son chapeau comme préliminaire de départ. Arthur, ayant toujours les mêmes motifs pour ne pas s'éloigner, ne bougea pas. À ce moment, la porte s'ouvrit sans que personne eût frappé, et M. Tip parut. Il embrassa Amy, qui venait de se lever pour s'élancer à sa rencontre, fit un signe de tête à son père, un autre signe de tête à Fanny, et s'assit après avoir regardé le visiteur d'un air sombre, comme s'il ne le connaissait pas. « Mon cher Tip, » demanda la petite Dorrit avec sa douceur habituelle, bien qu'elle fût honteuse de la conduite de son frère, « est-ce que tu ne vois pas ?»« Si, si, je vois parfaitement bien, ma chère. Si tu fais allusion à un certain visiteur qui se trouve actuellement dans cette chambre, si c'est là ce que tu veux dire, » interrompit Tip, hochant la tête d'une façon très significative du côté de Clennam, « je vois. C'est là tout ce que tu as à dire ?» « Oui, c'est là tout ce que je dis. Et je présume, » continua Tip d'un air altier, et après un moment de réflexion, « que le visiteur comprendra pourquoi je n'ai pas autre chose à dire. Bref, je présume que le visiteur comprendra qu'il ne m'a pas traité avec les égards que l'on doit à un gentleman. » « Je ne comprends pas cela, » répondit le visiteur, si mal accueilli par M. Tip. « Non ? « Alors, monsieur, je vais tâcher de m'expliquer un peu plus clairement. Vous me permettrez donc de vous dire que lorsque j'adresse à un individu une requête rédigée en termes convenables, une requête urgente, une requête délicate, à l'effet d'obtenir le prêt d'une légère somme dont il pouvait aisément disposer, aisément, remarquez-le, et que cet individu me répond qu'il me prie de l'excuser, je prétends qu'il n'a pas agi à mon égard, comme on doit agir envers un gentleman. » Le père des détenus, qui jusqu'alors avait contemplé son fils sans songer à l'interrompre, n'eut pas plutôt entendu cette dernière phrase qu'il intervint, s'écriant d'un ton irrité, « Comment osez-vous ? » ?»« Bah, ne me demandez pas comment j'ose, père, car tout ça c'est de la bêtise. Quant à la ligne de conduite que j'ai jugée à propos de suivre envers l'individu ici présent, vous devriez être fier de me voir soutenir la dignité de la famille. » « Je le crois bien, » s'écria Fanny. « La dignité de la famille ?» répéta le père. « En sommes-nous donc venus à ce point que mon propre fils croit m'apprendre, à moi, ce que c'est que la dignité ? Allons, père, à quoi bon nous ennuyer les uns les autres et nous chamailler à propos de ça ? Je suis convaincu que l'individu ici présent n'a pas agi à mon égard comme on doit agir envers un gentleman, voilà tout. » « Mais il s'en faut de beaucoup que ce soit tout, monsieur, » répliqua le père. « Détrompez-vous. Ah, vous êtes convaincu, vous? Vous êtes convaincu? Oui, je le suis. À quoi sert de vous échauffer la bile? Monsieur, continua le père, qui s'animait de plus en plus, vous n'avez pas le droit d'être convaincu d'une chose monstrueuse, d'une chose immorale, d'une chose parricidale. Non, monsieur Clennam, ne m'interrompez pas, je vous en prie. Il y a dans tout ceci un principe général qui doit l'emporter sur des considérations d'hospitalité. Je repousse l'assertion que vient de formuler mon fils. Ma foi, je ne vois pas ce qu'elle peut vous faire, riposta le fils, regardant par-dessus son épaule. Ce qu'elle peut me faire, monsieur, le sentiment de ma propre dignité me défend de l'admettre. Une pareille assertion, il prit son mouchoir et s'essuya le visage, est un outrage et une insulte pour moi. Supposons que j'ai moi-même, à une époque quelconque, ou à des époques quelconques, adressé une requête convenablement rédigée, une requête urgente, une requête délicate, à l'effet d'emprunter une légère somme à certains individus. Supposons que ces individus auraient pu m'avancer ladite somme sans se gêner le moins du monde, et qu'ils eussent refusé de me l'avancer, et que ces individus m'eussent répondu qu'ils me priaient de les excuser. Supposons tout cela. Dois-je permettre, à cause de cela, que mon propre fils vienne me dire qu'on a tenu à mon égard une conduite qu'on ne doit pas tenir envers un gentleman, et que j'ai souffert qu'on me traitât ainsi? Sa fille aimée cherchait doucement à le calmer, mais il ne voulait rien écouter du tout. Il répéta ce qu'il savait, ce qu'il se devait à lui-même, et qu'il ne souffrirait pas une pareille injure. Il demanda encore s'il devait permettre à son propre fils de tenir un pareil langage devant lui, à son propre foyer. Devait-il donc se laisser infliger une telle humiliation par son propre enfant? Si quelqu'un vous l'inflige, père, c'est vous. C'est vous-même qui vous créez cette chimère, répondit le jeune homme d'un ton de mauvaise humeur. La chose dont je suis convaincu ne vous regarde pas. Rien de ce que j'ai dit ne vous regarde. Pourquoi prendre la balle au bond quand ce n'est pas à vous qu'on l'adresse? Je réponds que ce que vous avez dit me regarde beaucoup, répliqua le doyen. Je vous ferai observer, monsieur, avec indignation, que la position délicate et singulière de votre père devrait suffire pour vous fermer la bouche, monsieur, lorsqu'il s'agit d'établir des principes aussi dénaturés. D'ailleurs, si vous ne tenez pas à vous montrer bon fils, monsieur, si vous faites bon marché de ce devoir-là, au moins j'aime à croire que vous n'avez pas cessé d'être chrétien. Seriez-vous par hasard un athée? Et permettez-moi de vous le demander, est-ce le fait d'un bon chrétien de vouloir stigmatiser et dénoncer un individu parce qu'il se sera excusé une fois, lorsque le même individu peut, une autre fois, avancer la somme qu'on désire lui emprunter? Est-ce bien le fait d'un chrétien de ne pas lui laisser l'occasion d'une nouvelle épreuve? Le doyen avait fini par s'animer d'une ferveur toute religieuse. « Je vois joliment bien, dit M. Tip, qui venait de se lever, que vous n'êtes pas disposé ce soir à entendre raison et que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de décamper. Bonsoir, Amy. Ne te tourmente pas de cela. Je suis très fâché que la chose soit arrivée ici et devant toi. Parole d'honneur, j'en suis bien fâché. Mais je ne puis pas non plus oublier le sentiment de ma propre dignité, même pour t'obliger, ma bonne vieille. » À ces mots, il prit son chapeau et sortit avec Mademoiselle Fanny, qui aurait cru manquer à sa dignité en s'éloignant sans témoigner à Clennam qu'elle faisait partie de l'opposition. Aussi le regarda-t-elle en face d'un air qui indiquait clairement qu'elle reconnaissait en lui un des nombreux conspirateurs ligués contre la famille Dorrit. Lorsqu'ils furent partis, le doyen parut assez disposé à retomber dans un accès de tristesse, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire sans l'arrivée fort opportune d'un gentleman qui vint conduire le père des détenus au café. C'était ce même gentleman que Clennam avait vu le soir où il avait lui-même été emprisonné par mégarde et qui avait émis l'idée ingénieuse de ses fonds secrets que le directeur de la prison était censé détourner à son profit. Il se présenta en qualité de députation pour escorter le doyen au café, à l'occasion d'une réunion musicale des détenus que M. Dorrit avait consenti à présider. Vous voyez, M. Clennam, quels sont les bizarres disparates de ma position. Mais il s'agit d'un devoir public. Personne, j'en suis sûr, n'est plus disposé que vous à pardonner de pareilles exigences. » Clennam le pria de se rendre sans perdre un instant, où l'appelait son devoir. « Amy, ma chère, si vous pouvez engager M. Clennam à rester plus longtemps, je puis vous confier le soin de faire les honneurs de notre pauvre demeure, et peut-être réussirez-vous à effacer de l'esprit de notre hôte l'incident inattendu et désagréable de tantôt. » Clennam assura que cet incident ne lui avait causé aucune impression et que par conséquent, il n'y avait rien à effacer du tout. « Mon cher monsieur, dit le doyen, ôtant sa calotte de velours noir et serrant la main de Clennam, de façon à lui faire comprendre que la lettre et le billet inclus lui étaient parvenus, Dieu vous bénisse. » Alors seulement le but que Clennam s'était proposé en restant se trouva atteint. Il pouvait parler à la petite Dorrit sans témoin. Maggie était bien là, mais ça ne comptait pas. Chapitre 32. Encore la bonne aventure. Maggie travaillait auprès de la croisée, coiffée de cet énorme bonnet blanc dont les nombreuses ruches opaques cachaient son profil, si peu qu'elle en eût, et l'œil unique dont elle pouvait disposer fixé sur son ouvrage. Grâce à son bonnet aux ruches clapotantes, grâce aussi à son œil inutile, elle était complètement séparée de sa petite mère qui était assise à l'autre bout de la salle, en face de la croisée. Le bruit des pas sur le pavé de la cour avait beaucoup diminué depuis que le doyen était allé occuper le fauteuil de la présidence, la plupart des détenus étant eux-mêmes au rendez-vous philharmonique. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas l'âme musicale ou dont les poches étaient vides flânaient seuls de côté et d'autre. On voyait ça et là le spectacle habituel d'une malheureuse épouse disant adieu à quelques prisonniers, d'un détenu rêveur et encore mal acclimaté qui se tenait à l'écart dans les coins de la cour, comme on voit traîner ailleurs dans les coins des toiles d'araignées rompues et d'autres ordures oubliées par le balai. C'était le moment le plus tranquille que connut la prison, à l'exception toutefois des heures que les détenus consacraient au sommeil. De temps en temps, les coups frappés sur la table du café signalaient la fin triomphante d'un morceau d'harmonie ou annonçaient que les détenus acceptaient avec enthousiasme un toast proposé par leur père. De temps en temps aussi, quelques refrains plus sonores annonçaient qu'un baryton vantard voguait dans sa nacelle ou chassait dans la plaine ou se promenait sur la montagne ou dans la bruyère. Mais le directeur de la prison savait très bien à quoi s'en tenir et ne s'inquiétait pas le moins du monde de ses évasions musicales. Lorsque Clennam s'avança pour prendre un siège auprès de la petite Dorrit, elle trembla tellement qu'elle eut de la peine à tenir son aiguille. Arthur posa doucement la main sur l'ouvrage de la jeune fille en lui disant « Chère petite Dorrit, laissez-moi mettre cela de côté. » Elle céda l'ouvrage qu'elle tenait à Arthur, qui le posa sur la table. La petite Dorrit se tenait les mains jointes, mais Clennam les sépara et en garda une dans les siennes. « Je vous vois bien rarement depuis quelque temps, petite Dorrit. J'ai été très occupé, monsieur. » « Oui, mais j'ai appris ce matin, par hasard, que vous aviez fait une visite à ces braves gens qui demeurent tout près de chez moi. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir par la même occasion ?»« Je ne sais pas, ou plutôt j'ai craint de vous déranger. Vous avez beaucoup d'occupations maintenant, n'est-il pas vrai ?» Il vit ce petit corps qui tremblait et ce visage penché et ses yeux qui se baissaient dès qu'il rencontrait les siens. Il vit tout cela avec presque autant d'inquiétude que de tendresse. « Mon enfant, vos manières sont bien changées. » En ce moment, il fut impossible à la petite Dorrit de maîtriser son émotion. Retirant doucement sa main pour la poser sur l'autre, elle se tint ainsi, la tête baissée et tremblant de tous ses membres. « Ma chère, ma bonne petite Dorrit, » dit Clennam d'un ton compatissant. Elle fondit en larmes. Maggie tourna tout à coup la tête du côté de la fenêtre et regarda sa petite mère pendant une minute au moins, mais elle n'intervint pas. Clennam attendit un peu avant de parler de nouveau. « Cela me fait trop de peine, dit-il alors, de vous voir pleurer. Mais j'espère que ces larmes qui vous pesaient sur le cœur sont pour vous un soulagement. » « Oui, monsieur, pas autre chose, pas autre chose. » « Allons, allons, calmez-vous, mon enfant. Je me doutais bien que vous alliez attacher trop d'importance à ce qui vient de se passer ici. Ce n'est rien, rien du tout. Je regrette seulement d'avoir causé cette scène par une visite importune. Que le souvenir s'en efface avec vos larmes. Il n'y a pas de quoi vous en faire verser une seule. Pour moi, je consentirais volontiers à voir cette scène se répéter 50 fois par jour pour vous épargner un moment d'ennui, ma petite Dorit. » Elle tremblait moins maintenant, et elle put répondre d'un ton qui ressemblait davantage à son ton habituel. « Vous êtes si bon, mais quand même il n'y aurait, dans ce qui s'est passé, aucun autre motif de regret ou de honte, une pareille ingratitude. » « Chut !» dit Clennam, qui ferma en souriant la bouche de la petite Dorit. « Ce serait vraiment étrange de vous voir oublier quelque chose, vous qui n'oubliez jamais personne et qui n'oubliez jamais rien. Dois-je vous rappeler que je ne suis et que je n'ai jamais été autre chose que l'ami dans lequel vous avez promis d'avoir confiance ? Vous vous souvenez de cette promesse-là, n'est-ce pas ? Je tâche de me la rappeler, sans quoi j'y aurais manqué tantôt lorsque mon frère était là. Mais vous, vous penserez aussi, n'est-ce pas, à la façon dont ce pauvre garçon a été élevé ici, et vous ne le jugerez pas trop sévèrement, j'en suis sûr. » Elle leva les yeux en prononçant ces mots et regarda le visage de son interlocuteur avec plus d'attention qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors et s'écria avec un rapide changement d'intonation « Vous n'avez pas été malade, monsieur Clennam ?»« Non, ni tourmenté, ni affligé, » ajouta-t-elle avec inquiétude. Ce fut au tour d'Arthur de ne savoir que répondre. « À vrai dire, répliqua-t-il, j'ai eu quelques chagrins, mais c'est fini. » Cela se lit-il donc si clairement dans mes traits ? Je devrais avoir plus de courage que cela et plus d'empire sur moi-même. Je croyais en avoir davantage. Il me faudra prendre des leçons de vous, ma petite Dorit. Qui pourrait mieux que vous m'enseigner la patience ? Il ne songea pas qu'elle voyait les traces d'une souffrance que personne n'aurait su lire dans ses traits. Il ne songea pas qu'il n'y avait pas dans le monde entier d'autres yeux capables de le regarder avec la même pénétration. « Mais cela m'amène à ce que je voulais vous dire, » continua-t-il. « Je ne saurais donc me fâcher même contre mon propre visage s'il s'avise de me trahir. D'ailleurs, c'est un privilège et un plaisir que de faire une confidence à ma petite Dorit. Laissez-moi donc vous avouer qu'oubliant ma gravité et mon âge, oubliant que le temps d'aimer a perdu pour moi dans ces années de monotonie et de peine, dont s'est composée ma longue existence dans un pays lointain, qu'oubliant tout cela, je me suis figuré que j'aimais quelqu'un. « Quelqu'un que je connais ?» demanda la petite Dorit. « Non, mon enfant. Ce n'est donc pas la dame qui a été si bonne pour moi à cause de vous. Flora ? Non, non. Avez-vous pu penser ?»« Je n'ai jamais pu le croire tout à fait, » dit la petite Dorit, qui semblait plutôt se parler à elle-même que répondre à Clennam. Cela m'étonnait un peu. Mais, poursuivit Arthur, qui sentit se réveiller en lui le sentiment qu'il avait éprouvé dans la sombre avenue de la soirée des roses, le sentiment qu'il se faisait déjà vieux et qu'il en avait fini avec les tendresses de la vie, j'ai fini par reconnaître mon erreur et cela m'a donné un peu à réfléchir. Ou plutôt, j'y ai beaucoup réfléchi et je suis devenu plus sage. Grâce à ma sagesse, j'ai pu compter le nombre de mes années et penser à ce que je suis. J'ai regardé en arrière, puis en avant. J'ai vu que mes cheveux ne tarderaient pas à grisonner. J'ai vu que j'avais gravi le montant de la colline et que j'avais dépassé le plateau qui se trouve au sommet et que je redescendrais rapidement de l'autre côté de la glissoire. S'il avait su la poignante douleur que ces paroles infligeaient au cœur patient de la petite Dorit, et cela quand il n'avait d'autre intention que de la mettre à son aise et de lui rendre service. J'ai vu que le jour où de pareilles choses auraient pu être bonnes et gracieuses pour moi, heureuses pour moi ou pour une autre, était passé pour ne plus revenir. Oh, s'il avait su, S'il avait pu voir le poignard qu'il tenait à la main et la cruelle blessure qu'il faisait au cœur fidèle de sa petite Dorit. Tout cela est fini et je n'y veux plus penser. Pourquoi ai-je parlé de ces choses à ma petite Dorit? Pourquoi vous ai-je montré, mon enfant, combien il y a d'années entre nous et vous ai-je rappelé que j'ai le double de votre âge? Parce que vous avez confiance en moi, je l'espère. Parce que vous savez que rien ne saurait vous toucher sans me toucher également. Que rien ne saurait vous rendre heureux ou malheureux sans m'affecter de la même manière, moi qui vous suis si reconnaissante. Il entendit trembler sa voix, il vit son visage sincère, il vit ce regard bleu qui ne pouvait mentir, il vit ce sein haletant qui se serait volontiers jeté au-devant de lui pour recevoir une blessure qui lui aurait été destinée en criant « Je l'aime !» Et il ne soupçonna pas un seul instant la vérité. Non, il ne vit en elle qu'un petit être dévoué, en souliers usés, en robe fanée, habitant une prison. Qu'une enfant faible de corps, mais d'un courage héroïque. La lumière qui éclairait à ses yeux l'histoire domestique de la jeune fille empêchait Clennam de voir autre chose. « Certainement, ma petite Dorit, ce sont là quelques-unes de mes raisons. » Mais j'ai encore un motif. Ma position, mon âge, ne me rendent que plus propre à devenir votre ami, votre conseiller. Plus digne de votre confiance, veux-je dire. La légère timidité que vous pourriez éprouver vis-à-vis d'un autre devrait disparaître devant un ami de mon âge. Pourquoi vous êtes-vous tenu à l'écart depuis quelque temps? Dites-le-moi. Je suis mieux ici qu'ailleurs. Ma place est ici où je puis être utile. « Je suis beaucoup mieux ici que partout ailleurs, » répondit la petite Dorit d'une voix faible. « C'est ce que vous m'avez dit l'autre jour sur le pont. J'y ai beaucoup songé depuis. N'avez-vous aucun secret que vous pourriez me confier, si vous le vouliez bien ?»« Un secret ? Non, je n'ai pas de secret, » répliqua la petite Dorit avec un peu de trouble. Ils avaient parlé à voix basse, plutôt parce que c'était le ton qui convenait naturellement à leur sujet de conversation que par le désir d'empêcher Maggie d'entendre ce qu'il disait. Tout à coup, Maggie tourna de nouveau la tête vers la croisée. Mais cette fois, au lieu de garder le silence, elle cria « Dites donc, petite mère !»« Eh bien, Maggie, si vous n'avez pas de secret à vous à lui dire, racontez-lui le secret de la princesse. Elle en avait un, vous savez. » La princesse avait un secret, dit Clennam, avec quelque surprise. « Et quelle est cette princesse-là, Maggie ?»« Bonté divine ! Vous ne ménagez guère une pauvre enfant de 10 ans, » répondit Maggie. « Qui est-ce qui vous dit que la princesse avait un secret ? Pas moi, toujours. »« Je vous demande pardon, Maggie. Je croyais que vous disiez ça. »« Pas du tout. Comment pouvais-je dire ça ? Puisque c'est elle, au contraire, qui veut découvrir le secret. »« C'est la petite femme mignonne, celle qui est toujours affilée. » qui a un secret. Alors l'autre lui dit, « Pourquoi que vous le cachez là ?» Alors elle lui répond, « Mais non, je ne cache rien. » Alors l'autre lui dit, « mais si, vous cachez quelque chose. » Comme ça, elles s'en vont toutes les deux à l'armoire et on découvre tout. Mais comme elle ne voulait pas aller à l'hôpital, elle est morte. Vous savez bien, petite mère, racontez-lui l'histoire. « Car c'est un fameux secret, allez !» s'écria Maggie en se berçant les genoux. Arthur regarda la petite Dorit pour lui demander une explication. Il fut frappé de la voir si troublée et si rouge. Elle lui dit que ce n'était qu'un conte de fées qu'elle avait inventé un jour pour amuser Maggie et qui était trop ridicule pour qu'elle ne fût pas honteuse de le répéter à d'autres. Quand même, elle parviendrait à se le rappeler. Arthur ne songea donc plus au sujet de la princesse, mais il reprit son sujet de conversation en priant la petite Dorit de le voir plus souvent et de se souvenir qu'il était impossible qu'on s'intéressât à elle plus qu'il ne le faisait ou de lui vouloir plus de bien qu'il ne lui en voulait. Lorsqu'elle lui eut répondu avec chaleur qu'elle savait cela, qu'elle ne l'oubliait jamais, Arthur aborda un autre sujet, un sujet plus délicat, c'est-à-dire le soupçon qu'il avait formé. « Petite Dorit, » dit-il, lui prenant la main et lui parlant encore plus bas qu'il ne l'avait fait jusqu'alors, « de sorte que Maggie, malgré la petitesse de la chambre, n'entendait rien. « Voyons, un dernier mot. Il y a longtemps que je désire vous en parler. J'ai cherché des occasions pour vous le dire. N'ayez point peur de moi, qui, sous le rapport des années, pourrais être votre père ou votre oncle. Regardez-moi comme un vieillard. Je sais que tout votre dévouement et que jamais rien ne vous tentera d'abandonner les devoirs que vous remplissez ici. Si je n'en avais pas été sûr, je vous aurais déjà prié et j'aurais prié votre père de me permettre de vous établir dans quelque endroit plus convenable. Mais il se peut que vous vous intéressiez, je ne dis pas aujourd'hui, quoique cela ne soit pas impossible, mais que vous vous intéressiez un jour à quelqu'un en dehors de cette chambre. Il n'y aurait rien là d'incompatible avec vos affections de famille. » Elle était bien pâle et secoua silencieusement la tête. « Mais cela peut arriver, chère petite Dorit. » « Non, non, non. » Elle secoua encore la tête à chaque lente répétition de ce mot, avec un air de calme désolation dont il se souvint longtemps après. Le temps devait venir où il s'en souviendrait, entre les murs de cette prison, dans cette même chambre. « Mais si cela arrive jamais, dites-le-moi, ma chère enfant. Confiez-moi la vérité. Montrez-moi l'objet de votre nouvelle affection, et j'essaierai, avec tout le zèle, tout l'honneur, toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour vous, bonne petite Dorit de mon cœur, de vous rendre un service durable. » « Oh, merci, merci, mais non, non, non. » Elle prononça ces paroles en le regardant, ses mains usées par le travail croisées devant elle et avec le même ton de résignation qu'auparavant. « Je ne vous presse pas de me faire aucune confidence en ce moment. Tout ce que je vous demande, c'est la promesse de vous fier à moi sans hésitation. Puis-je faire moins, lorsque vous êtes si bon? Alors, vous vous fierez entièrement à moi? Vous ne me cacherez aucun malheur secret, aucune inquiétude secrète? J'en sais bien peu que je voudrais cacher. Et vous ne m'en cachez pas aujourd'hui? » Elle secoua la tête, mais elle était bien pâle. Lorsque je me coucherai ce soir, et que ma pensée me ramènera à ce triste endroit, et elle m'y ramènera, car j'y reviens toujours, même lorsque je ne vous ai pas vu, je puis donc croire que ma petite Dorit n'est en proie à aucun chagrin, en dehors de cette chambre, et de ceux qui l'occupent d'habitude. La jeune fille sembla saisir avec vivacité le double sens de ses paroles, pour lui répondre avec moins d'embarras. Clennam se rappela aussi ce fait longtemps après. « Oui, monsieur Clennam, oui, vous le pouvez. » L'escalier délabré qui s'empressait toujours de crier dès que quelqu'un montait ou descendait se mit à craquer sous un pas rapide. Puis on entendit bientôt un autre bruit, semblable à celui d'une petite machine à vapeur trop chauffée, se dirigeant vers la chambre. À mesure qu'elle s'approchait et elle s'avançait à grande vitesse, elle semblait se presser davantage. On frappa à la porte. Alors on eût dit que la machine se baissait et lâchait sa vapeur par le trou de la serrure. Avant que Maggie eût eu le temps d'ouvrir, M. Punks, poussant lui-même la porte, parut sur le seuil, sans chapeau et la tête nue, dans un état d'ébouriffement incroyable, regardant Clennam et la petite Dorit. Il avait à la main un cigare allumé, et apportait avec lui un parfum d'ale et de tabac. « Punks le bohémien » murmura-t-il tout essoufflé. « Punks le bohémien » disant la bonne aventure. Il se tint immobile, leur adressant un noir sourire, ronflant plus fort encore que d'habitude, et les dévisageant d'un air étrange. On eût dit qu'au lieu d'être tout simplement le factotum de son vénérable propriétaire, le remorqueur était devenu lui-même le propriétaire de la prison de la Maréchaussée, de tous les détenus et de tous les guichetiers. Dans son contentement, il porta son cigare à ses lèvres, on voyait tout de suite que Punks n'était pas un fumeur, et en tira une telle bouffée, après avoir fermé son œil droit bien hermétiquement, afin de se donner plus de force, qu'il se mit à frissonner et parut sur le point de s'étrangler. Mais même au milieu de ce paroxysme, il essaya de répéter sa phrase d'introduction favorite, « Punks, le beau homme est mien », disant la bonne aventure. Je suis en train de passer la soirée avec les autres, continua-t-il, dès qu'il se fut un peu remis. Je viens de chanter. J'ai fait la partie de contralto dans je ne sais quel morceau. La musique, ça n'est pas mon affaire à moi. C'est égal. Je ferai ma partie dans tout ce qu'on voudra. Pas besoin de savoir la musique, pourvu que vous criiez assez fort. Au premier abord, Clennam avait cru que Pangs le bohémien avait trop bu. Mais il ne tarda pas à reconnaître que bien que Lyle entrât pour quelque chose dans l'émotion du remorqueur, le fond même de cette émotion ne provenait d'aucune brasserie ni d'aucune distillerie. « Comment vous portez-vous, mademoiselle Dorrit ?» demanda Pinks. « J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas si je montais un instant pour m'informer de vos nouvelles. J'ai su par monsieur Dorrit que monsieur Clennam était ici. Comment allez-vous, monsieur ?»« Très bien, je vous remercie, » répondit Clennam. « Je suis heureux de vous voir gai, monsieur Pinks. »« Gai ? Plus gai qu'un pinson, monsieur. Je n'ai qu'une minute à vous donner, autrement les autres s'apercevraient de mon absence, et il ne faut pas qu'on s'en aperçoive. N'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?» Il semblait prendre un plaisir insatiable à l'appeler en témoignage et à la contempler, tout en redressant ses cheveux hérissés sur sa tête, ce qui lui donnait l'air d'un cacatoès en deuil. « Il n'y a pas une demi-heure que je suis ici. J'ai su que M. Dorrit occupait le fauteuil de la présidence et je me suis dit, il faut que j'aille l'aider. Dans ce moment-ci, je devrais être à ramasser mes loyers dans la cour du cœur saignant. Mais bah, je les tracasserai tous aussi bien demain. N'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?» Ses petits yeux noirs paraissaient briller d'une lueur électrique. Ses cheveux de plus en plus ébouriffés semblaient aussi dégager des étincelles. Il était tellement chargé d'électricité qu'on aurait pu faire étinceler et pétiller toute partie de sa peau de chat à laquelle on aurait présenté un corps conducteur. « On trouve ici une société fort distinguée, » reprit Pinks, « n'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?» Elle avait presque peur de lui et ne savait que répondre. Il se mit à rire en faisant un signe de tête à Clennam. « Ne faites pas attention à lui, mademoiselle Dorrit. Il en est. Nous sommes convenus que vous n'auriez pas l'air de me reconnaître devant le monde. Mais la défense ne regarde pas du tout, monsieur Clennam. Il en est. Pas vrai, monsieur Clennam. N'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?» L'agitation de cet étrange personnage gagnait rapidement Arthur. La petite Dorrit s'en aperçut, non sans surprise, et remarqua qu'ils échangeaient de rapides coups d'œil. « J'avais commencé à vous dire quelque chose, » ajouta Pinks, « mais je ne me rappelle vraiment plus ce que c'était. » « Oh, je sais, on trouve une fameuse société ici. C'est moi qui régale tout le monde, n'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?»« C'est très généreux de votre part, » répondit-elle, remarquant qu'ils échangeaient encore un regard d'intelligence. « Pas du tout, ce n'est pas la peine d'en parler. Le fait est que je vais rentrer dans mes biens. Je puis me permettre d'être généreux. J'ai envie de donner un festin de Balthazar à tous les détenus. On dressera les tables dans la cour, des montagnes de pain, des buissons de pipes, des charrettes de tabac, du roast beef et du plum pudding à discrétion. Une bouteille de porter, première qualité, par tête. Une pinte de vin par-dessus le marché, pour ceux qui en voudront. Si toutefois les autorités compétentes veulent bien le permettre, n'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ? Elle était tellement troublée par les façons de Pinks, ou plutôt si étonnée de voir qu'à chaque instant, Clennam semblait mieux comprendre les paroles du petit remorqueur, car à chaque nouvelle démonstration du cacatoès humain, elle regardait Arthur pour lui en demander l'explication, qu'elle n'eût pu que remuer les lèvres en réponse, mais sans parvenir à articuler une syllabe. « À propos, s'écria Pinks, vous vous rappelez que j'ai promis de vous apprendre ce qu'il y avait derrière votre petite main. Et vous l'apprendrez, ma chérie, n'est-ce pas, mademoiselle Dorrit ?» Il s'était interrompu tout à coup. Où diantre avait-il pris les innombrables petits fourchons dont les pointes noires surgirent soudain sur sa tête, comme ces myriades de baguettes que lance le bouquet d'un feu d'artifice? C'est là un mystère à jamais impénétrable. « Mais on finirait par s'apercevoir de mon absence, répéta-t-il, et je ne voudrais pas qu'on s'en aperçût. Monsieur Clennam, vous et moi, nous avons conclu un marché. » « Je vous ai dit que je ne manquerai pas à mes engagements. Vous verrez que je sais tenir une promesse, si vous voulez bien sortir un instant avec moi. » Mademoiselle Dorit, je vous souhaite le bonsoir. Mademoiselle Dorit, je vous souhaite bien du bonheur. » Après avoir donné à la jeune fille une double et rapide poignée de main, il descendit l'escalier en ronflant plus fort que jamais. Arthur mit tant de hâte à le suivre qu'il faillit le renverser sur le dernier palier et le faire dégringoler dans la cour. « Qu'est-ce qu'il y a, au nom du ciel ?» lorsqu'ils se furent tous les deux élancés dehors. « Attendez un instant. Mon ami Ragg, permettez-moi de vous le présenter. » Ce fut ainsi qu'il présenta à Clennam un autre personnage sans chapeau, également armé d'un cigare, également entouré d'une atmosphère d'ale et de tabac, lequel, bien que son agitation fût loin d'approcher de celle de Punks, eût paru digne de Bedlam dans le voisinage du petit fou furieux de Remorqueur, qui, par contraste, en faisait un homme grave et sensé. « Monsieur Clennam, Monsieur Ragg, dit Punks, attendez un instant, venez à la pompe. » Ils se dirigèrent vers la pompe. Monsieur Punks, mettant immédiatement la tête sous le goulot, pria Monsieur Ragg de pomper vigoureusement. Monsieur Ragg ayant obéi sans hésiter, Monsieur Punks se releva reniflant et pouffant, non sans raison cette fois, et s'essuya avec son mouchoir. « Ça m'a fait du bien, ça m'a éclairé les idées, » s'écria-t-il tout haletant en s'adressant à Clennam, qui le contemplait d'un air étonné. « Mais, ma parole d'honneur, quand on sait ce que nous savons et qu'on entend le père de Mademoiselle Dorit faire les discours que nous venons d'écouter, quand on sait ce que nous savons et qu'on voit Mademoiselle Dorit logée dans une pareille chambre et vêtue d'une pareille robe, il y a de quoi. Donnez-moi votre dos, monsieur Ragg. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Là, nous y sommes. » À cette heure, dans la cour de cette prison, à l'ombre de la nuit naissante, M. Punks, qui se serait jamais attendu à pareille chose de sa part, bondit comme un écolier par-dessus la tête et les épaules de M. Rack, de Pentonville, agent d'affaires, teneur de livres, etc., et retombant sur ses pieds, il prit Clennam par la boutonnière, le conduisit derrière la pompe et tira de sa poche un paquet de papier. M. Ragg tira également de sa poche un autre paquet de papier. « Attendez, » dit Clennam à voix basse, « vous avez découvert quelque chose ?»« Un peu, » répondit M. Punks, avec une onction que nous renonçons à rendre. « Cette découverte compromet-elle quelqu'un ?»« Comment cela, monsieur ? Par quelque fraude ou quelque injustice ?»« Pas le moins du monde. »« Dieu soit loué, » se dit Clennam, qui ajouta tout haut, « maintenant, parlez. » « Vous saurez, monsieur, » dit Punks, déroulant des papiers d'une main fébrile et lançant dans chaque petite phrase, comme une locomotive à haute pression, lâche de petites bouffées de vapeur, « où est la généalogie ? Où est le document numéro 4, monsieur Ragg ? Oh, très bien, nous pouvons marcher. Vous saurez qu'aujourd'hui, nous sommes virtuellement en règle. Nous ne le serons légalement que dans un jour ou deux, mettons au plus une semaine. » Nous y avons travaillé nuit et jour depuis je ne sais plus combien de temps. Monsieur, vous savez combien il y a de temps que nous y travaillons ? N'importe. Ne dites rien, vous ne feriez que m'embrouiller. Vous communiquerez la nouvelle à Mademoiselle Dorit, monsieur Clennam, mais pas avant que nous vous y ayons autorisé. Où est le total approximatif, monsieur Ragg ? Bon, lisez, monsieur. Voilà ce que vous aurez à communiquer tout doucement à Mademoiselle Dorit. Voilà la somme qui revient à votre père de la maréchaussée.